Chapitre 53. Charleston, lundi 4 mai 1981. Plus tard, Nathalie devait se souvenir de leur voyage comme d'un rêve long de 4500 kilomètres. Il commença par le miracle du 4x4. Ils avaient erré toute la nuit dans les ténèbres du parc national de Cleveland, rebroussant chemin et quittant le coupe-feu, après avoir aperçu des phares sur les lacets d'une colline, empruntant des pistes à peine plus praticables que des sentiers. Puis ces pistes avaient disparu, et seule la faible densité des arbres dans une petite vallée leur avait permis de progresser, suivant le lit d'un ruisseau asséché pendant 6 kilomètres, roulant en feu de position sur un sol caoteux, puis gravissant une pente et suivant une ligne de crête où l'herbe dissimulait souches et rochers. Plusieurs heures s'écoulèrent. Puis l'inévitable se produisit. Saul était au volant, et Nathalie avait réussi à s'assoupir en dépit des chaos qui secouaient la fourgonnette. Le rocher invisible se trouvait à mi-hauteur d'une pente qu'il gravissait péniblement en seconde. Il épargna l'essieu avant, mais démolit le carter, démantibula l'arbre de transmission, et la fourgonnette s'immobilisa sur ce qui restait de l'essieu arrière. Saul prit une lampe torche, rampa sous le véhicule, et réapparut au bout de 30 secondes. « Fichu, on continue à pied. » Nathalie était trop épuisée pour pleurer ou en avoir seulement envie. « Qu'est-ce qu'on emporte ?» Saul balaya le compartiment arrière avec le faisceau de sa lampe. « L'argent, il est dans le sac à dos. La carte, une partie de la nourriture, les pistolets, je pense. » Il considéra les deux fusils. « Est-ce que ça vaut la peine de les prendre ? Est-ce qu'on va tirer sur des policiers innocents ? Non. Alors abandonnons aussi les pistolets. » Nathalie jeta un regard circulaire sur la sombre muraille des collines boisées, puis contempla le ciel étoilé. « Saul, est-ce que tu sais où on est ?» On avait pris la direction de Murrieta, mais on a fait tellement de tours et de détours que je suis complètement perdu. Est-ce qu'ils réussiront à nous suivre ? Pas en pleine nuit. Saul consulta sa montre. Il était 4 heures du matin. Ils retrouveront notre piste dès le lever du jour. Ils fouilleront d'abord les chemins forestiers. Un hélicoptère finira tôt ou tard par repérer la fourgonnette. Est-ce qu'il est utile d'essayer de la camoufler ? Saul regarda en haut de la colline. Une centaine de mètres les séparaient des arbres les plus proches. Le reste de la nuit leur serait nécessaire pour couper assez de jeunes pousses, les transporter jusqu'à la fourgonnette et camoufler celle-ci. Non. Faisons nos bagages et fichons le camp. 20 minutes plus tard, ils gravissaient la colline, soufflant et haletant. Nathalie portant le sac à dos et Saul la valise contenant leur argent et les dossiers dont ils refusaient de se séparer. « On s'arrête une minute, » dit Nathalie lorsqu'ils arrivèrent au niveau des arbres. « Pourquoi ?» Parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. » Elle attrapa des Kleenex dans le sac à dos, prit une lampe torche et s'avança entre les arbres. Saul poussa un soupir et s'assit sur la valise. Il se rendit compte qu'il commençait à somnoler chaque fois qu'il fermait les yeux, et que, chaque fois qu'il somnolait, la même image lui venait lentement à l'esprit. Richard Haynes, le visage livide et l'air surpris, remuant les lèvres, sa voix se faisant entendre un instant plus tard, comme dans un film mal doublé. « Aidez-moi, je vous en supplie. »« Saul ?» Il se ressaisit, dégaina le colt qu'il avait glissé dans sa poche et courut vers les arbres. Nathalie se tenait à 10 mètres de lui, éclairant de sa lampe un 4x4 Toyota rouge vif, aux lignes copiées sur celles d'une Land Rover. « Est-ce que je rêve ? » demanda-t-elle. « Alors je fais le même rêve, » dit Saul. La voiture était si neuve qu'elle semblait sortie d'un hall d'exposition. Saul éclaira le sol. Il ne vit aucune piste, mais aperçut la trace du 4x4 entre les arbres. Il essaya d'ouvrir les portes et le coffre arrière, fermé à clé. « Regarde, il y a un papier glissé sous l'essuie-glace. » Nathalie l'attrapa et l'éclaira. « C'est un message. » « Cher Alan et Suzanne, aucun problème pour arriver. Nous partons en randonnée, à 4 kilomètres en aval de la Little Margarita. Apportez la bière. Amitié, Heather et Carl. Elle éclaira la lunette arrière. Un pack de Coors était posé derrière la banquette.
Génial! On le fait démarrer et on l'emprunte?
Tu sais faire démarrer une voiture sans clé de contact? Demanda Saul en se rasseyant sur sa valise.
Non, mais ça a l'air tout simple à la télé.
Tout est toujours simple à la télé. Avant de tripoter le système d'allumage, qui est sans doute électronique et hors de portée de mes faibles talents de mécanicien, réfléchissons quelques instants. Comment Alan et Suzanne sont-ils censés récupérer la bière? Les portières sont fermées à clé.
Ils ont un double des clés?
Peut-être. À moins qu'elles n'aient été cachées dans un endroit convenu d'avance. Elle se trouvait dans le second endroit que Nathalie examina, le tuyau d'échappement. Le porte-clés était aussi neuf que la voiture et portait l'emblème du concessionnaire Toyota de San Diego. Lorsqu'ils ouvrirent la portière, Nathalie eut les larmes aux yeux en sentant l'odeur de Sky et de voiture neuve.
« Je vais voir si je peux faire descendre cet engin en bas de la colline, » dit Saul.
« Pourquoi ?»«
Je vais y transférer l'équipement qui nous est nécessaire. » Le C4, les détonateurs et l'électroencéphalographe.
Tu crois qu'on en aura encore besoin?
J'en aurai besoin pour l'expérience de biofeedback.
Saul lui ouvrit la portière, mais elle recula d'un pas.
Qu'y a-t-il?
Récupère-moi quand tu reviendras ici.
Tu as oublié quelque chose?
Nathalie se tortilla.
Oui, j'ai oublié d'aller aux toilettes.
Ils trouvèrent un seul barrage sur leur route. Le Toyota roulait à merveille sur le sol inégal, et au bout de 2 kilomètres, ils aperçurent 2 sillons parallèles donnant sur un chemin forestier qui débouchait sur une route gravillonnée. Peu de temps avant l'aube, ils se rendirent compte qu'ils longeaient depuis un moment une clôture grillagée, et Nathalie demanda à Saul de s'arrêter le temps qu'elle déchiffre la pancarte fixée au grillage. Propriété du gouvernement des États-Unis. Entrée interdite. Par ordre du commandant Kemp Pendleton, USMC.
« On est encore plus perdu que je ne le pensais, » dit Saul.
« Amen.
Tu veux une autre bière ?»«
Pas encore. » Ils tombèrent sur un barrage établi à l'entrée d'un petit village du nom de Fallbrook, après avoir parcouru 1,5 km sur une route goudronnée. Dès qu'ils s'y étaient engagés, Nathalie s'était tapie derrière les sièges, se dissimulant sous une couverture et essayant de trouver une position confortable.
« Ça ne durera pas longtemps, » avait dit Saul en écartant canette et appareil pour lui permettre de respirer.
« Il recherche une jeune femme de race noire et un complice de sexe masculin non identifié, roulant dans une fourgonnette de couleur sombre. J'espère qu'ils ne chercheront pas noise un type tout seul dans une Toyota toute neuve. Qu'en penses-tu ? »
Nathalie lui avait répondu par un ronflement.
Il la réveilla 5 minutes plus tard en apercevant le barrage routier. Près d'une voiture de la police de la route, garée en travers de la chaussée, 2 hommes à l'air endormi buvaient du café dans une bouteille thermos. Saul avança au ralenti et s'arrêta à leur niveau. Le premier policier resta près de son véhicule, tandis que le second fit passer son gobelet dans sa main gauche et se dirigea lentement vers la voiture.
« Bonjour. »
Saul hocha la tête.
« Bonjour, monsieur, que se passe-t-il ? »
Le policier se pencha pour regarder à travers la vitre. Il examina les caisses entassées à l'arrière.
« Vous venez du parc national ?»«
Oui. »
Saul savait que les coupables avaient tendance à trop parler, à expliquer chacun de leurs faits et gestes. Lorsqu'il avait assisté la police de New York dans l'affaire Son of Sam, un lieutenant expert en interrogatoire lui avait dit que les coupables les plus malins se faisaient toujours prendre en défaut à cause de leurs histoires trop plausibles. À en croire l'expert, les innocents tendaient à s'exprimer de façon incohérente, à se sentir coupables sans raison.
« Vous y avez passé la nuit ?»
demanda le policier en reculant, pour mieux distinguer l'endroit où se trouvait Nathalie, dissimulée sous la couverture, le sac à dos et le pack de bière. « La nuit dernière et celle d'avant. »
Saul regarda le second policier qui se rapprochait de son équipier.
« Que se passe-t-il ? »
« Vous avez campé là-haut ? »
Le premier policier sirota son café.
« Oui, et j'ai essayé mon nouveau 4x4. »« Il est superbe. »« Il est tout neuf. »
Saul acquiesça.
Où l'avez-vous acheté ?
Saul lui donna le nom du concessionnaire qui figurait sur le porte-clés.
Où demeurez-vous ?
Saul hésita une seconde. Il y avait une adresse new-yorkaise sur le faux passeport et le faux permis que Cohen lui avait procuré.
À San Diego, depuis environ 2 mois.
Où ça, à San Diego ?
Le policier était tout sourire, mais Saul remarqua que sa main droite était posée sur la crosse de son pistolet, et que le rabat de son étui était ouvert. Saul n'était passé à San Diego qu'une fois, 6 jours auparavant, lorsque Jack Cohen leur avait fait traverser la ville par l'autoroute. Il était si tendu et si épuisé par son périple que tous les détails de cette nuit s'étaient gravés dans son esprit. Il se rappelait au moins 3 sorties par leur nom.
Sherwood Estates, 1990 Spruce Road, à côté de Linda Vista Road.
Ah oui, dit le policier. Le dentiste de mon beau-frère avait son cabinet sur Linda Vista. Vous habitez près de l'université?
Pas trop près.
Je suppose que vous n'allez pas me dire ce qui se passe.
Le policier scruta l'intérieur de la Toyota, comme pour mieux distinguer le contenu des caisses.
Des problèmes du côté du lac Elsinore. Où est-ce que vous avez dit que vous êtes allé camper?
Je ne vous l'ai pas dit, mais c'était du côté de la Little Margarita.
Et si je ne rentre pas à la maison, ma femme va rater la messe, et je vais avoir des ennuis.
Le policier hocha la tête.
Vous n'auriez pas aperçu par hasard une fourgonnette noire ou bleu marine?
Non.
Je m'en doutais. Il n'y a aucune route entre ici et le lac Coote, après tout. Et des randonneurs? Une femme noire, âgée d'une 20aine d'années? Et un type plus vieux, peut-être un Palestinien?
Un Palestinien?
Non, je n'ai vu personne excepté un jeune couple, Heather et Carl. Ils étaient en pleine lune de miel. J'ai essayé de ne pas les déranger.
Il y a des terroristes moyen-orientaux dans le coin?
Peut-être. On recherche une jeune noire et un Palestinien qui trimballe un véritable arsenal. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre accent, Mr...
Grotzman. Saul Grotzman.
Hongrois?
Polonais.
Mais je suis citoyen américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Bien, monsieur.
Est-ce que ces chiffres veulent bien dire ce que je pense?
Saul baissa les yeux sur son bras nu, posé sur le rebord de la portière.
C'est un tatouage que l'on m'a fait dans un camp de concentration nazi.
Le policier hocha lentement la tête.
Je n'en avais jamais vu. Désolé de vous retarder, Mr. Grotzman, mais j'ai encore une question importante à vous poser.
Oui?
Le policier recula d'un pas, reposa sa main sur la crosse de son revolver et se tourna vers l'arrière de la Toyota.
Combien coûtent ces jeeps japonaises exactement?
Saul éclata de rire.
Trop cher à en croire ma femme, monsieur. Beaucoup trop cher.
Il salua les 2 hommes et continua sa route. Ils traversèrent San Diego, prirent l'I-8 en direction de l'Est, roulèrent d'une traite jusqu'à Yuma, garèrent le Toyota dans une petite rue et allèrent déjeuner dans un McDonald's.
« Il faut trouver une autre voiture, » dit Saul en sirotant son milkshake.
Il se demandait parfois ce que sa grand-mère Kasher penserait en le voyant.
« Déjà ?» dit Nathalie.
« On va devoir apprendre à les faire démarrer sans clé. »«
Si tu veux essayer, vas-y. » Mais je pensais à une méthode plus simple.
Saul indiquait un vendeur de voitures d'occasion de l'autre côté de la rue.
« Nous pouvons sacrifier une partie des $30,000 qui dorment dans ma valise. »
« D'accord, mais prenons un modèle avec l'air conditionné. On va traverser pas mal de déserts dans les 2 ou 3 prochains jours. »
Ils quittèrent Yuma à bord d'un break Chevrolet vieux de 3 ans et pourvu de l'air conditionné, d'une direction automatique, de freins automatiques et de vitres automatiques. Saul avait déconcerté le vendeur à 2 reprises, lorsqu'il lui avait demandé si la voiture était également équipée de cendriers automatiques, et lorsqu'il avait payé la somme demandée sans essayer de marchander. Ils se félicitèrent de ne pas avoir perdu de temps. Lorsqu'ils retournèrent dans la petite rue où ils avaient garé le Toyota, un groupe d'adolescents basanés était en train de casser une de ses vitres à coups de pierre. Ils s'égayèrent en riant et en leur faisant des gestes obscènes.
« Charmant,
commenta Saul. Je me demande ce qu'ils auraient fait du plastique et du M16.
Nathalie lui lança un regard étonné.
Tu ne m'avais pas dit que tu avais gardé le M16 ?
Saul rajusta ses lunettes et regarda autour de lui.
Il faut chercher un quartier plus tranquille. Suis-moi.
Ils se rendirent au centre commercial le plus proche, où Saul transféra le contenu du Toyota dans la Chevrolet, abandonnant le 4x4 vitre ouverte et la clé sur le tableau de bord.
« Je ne veux pas qu'on l'abîme, » expliqua-t-il.
« Seulement qu'on le vole. »
24 heures plus tard, ils décidèrent de rouler de nuit. Et Nathalie, qui avait toujours rêvé de visiter le sud-ouest des États-Unis, n'en garda que le souvenir d'un ciel étoilé éclairant le ruban monotone d'une autoroute, d'une aube triomphante bariolant le monde grisâtre de rose, d'orange et d'indigo, et du vacarme de la climatisation dans les minuscules chambres de motel qui sentaient le tabac froid et le désinfectant. Saul s'enfonçait de plus en plus en lui-même, laissant le plus souvent le volant à Nathalie et lui demandant de s'arrêter un peu plus tôt chaque matin afin qu'il puisse passer du temps avec ses dossiers et ses machines. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'est du Texas, Saul passait des nuits entières à l'arrière du break, assis en tailleur devant l'ordinateur et l'électroencéphalogramme relié à la batterie qu'il avait achetée dans un Radio Shack de Fort Worth. Nathalie n'osait même pas allumer l'autoradio de peur de le déranger.
« Tu vois, la solution c'est le rythme Theta »,
disait-il les rares fois où il lui adressait la parole.
« C'est le signal idéal, l'indicateur infaillible. Je ne peux pas le créer moi-même, mais je peux le capter par l'entremise de la boucle du biofeedback, de façon à reconnaître ce qu'il indique. »
En m'entraînant à réagir à la pointe alpha initiale, je peux conditionner le mécanisme de déclenchement de mes suggestions post-hypnotiques.
« Est-ce une façon de contrer leur pouvoir ?» demanda Nathalie.
Saul rajusta ses lunettes et plissa le front.
« Non, pas vraiment. Je ne pense pas qu'il existe une façon de contrer un tel talent, à moins de le posséder soi-même. Il serait intéressant de tester une variété d'individus dans des conditions de... « Alors à quoi ça sert ?»
s'écria Nathalie exaspérée.
« Cela nous donne une chance. Une chance de créer une sorte de système d'alarme dans le cortex cérébral. Une fois élaboré un conditionnement approprié au moyen du biofeedback, je pense être en mesure d'utiliser le phénomène du rythme Theta pour déclencher les suggestions post-hypnotiques et me rappeler les données que j'ai mémorisées.
Les données ? Tu veux parler de toutes les heures que tu as passées au Yad Vashem et à la maison des combattants du ghetto ?
Olarame Hagedaot.
Oui.
Les heures que j'ai passées à lire les dossiers que t'envoyait Wiesenthal, à mémoriser les photographies, les biographies et les bandes magnétiques tout en me plongeant dans un léger état de transe, favorisant l'activité de la mémoire.
Mais à quoi ça sert de partager les souffrances de tous ces gens si cela ne te protège pas de nos vampires psychiques ?
Imagine un projecteur de diapositives en forme de manège.
L'Oberst et ses semblables ont le pouvoir de faire tourner ce manège neurologique et d'y insérer leurs propres diapos, d'imposer leur surmoi et leur volonté sur cet ensemble de souvenirs, de craintes et de préférences que nous appelons une personnalité. Je veux simplement insérer d'autres diapositives dans le projecteur.
Mais tu n'es pas sûr que ça marchera ?
Non.
Et tu ne penses pas que ça marcherait avec moi ?
Saul ôta ses lunettes et se frotta l'arête du nez.
Quelque chose de comparable serait possible dans ton cas, Nathalie. Mais ce quelque chose devrait être expressément conçu en fonction de ton histoire personnelle, de tes traumatismes, de tes capacités d'empathie. Je ne serais pas capable d'élaborer le processus d'apprentissage hypnotique susceptible de créer ton type de diapo. Mais même si ce truc marche dans ton cas, il n'aura aucun effet sur les autres vampires, seulement sur l'Oberst.
Sans doute.
Seul lui et moi possédons l'expérience commune nécessaire pour concevoir les personnalités que je suis en train de créer, que j'essaie de créer durant ces séances d'empathie. Et ça ne l'arrêtera pas. Ça ne fera que le plonger dans la confusion pendant quelques secondes, à condition que tous ces mois de travail et de manipulation aboutissent à quelque chose.
Exactement.
Nathalie secoua la tête et contempla les deux cônes lumineux qui éclairaient le ruban d'asphalte infini.
Alors comment peux-tu passer autant de temps là-dessus, Saul ?
Il ouvrit le dossier qu'il était en train d'étudier et regarda la photo d'une jeune fille au visage blême et aux yeux effrayés, vêtue d'un manteau et d'un foulard sombre. Le pantalon noir et les bottes d'un Waffen-SS étaient visibles dans le coin de l'image, en haut à gauche. La jeune fille était en train de se tourner vivement vers l'objectif et son visage était flou. Elle tenait une petite valise de la main droite, mais au creux de son bras gauche était nichée une poupée de chiffon, sans doute confectionnée par sa mère. La photographie n'était accompagnée que d'un court texte dactylographié en allemand, sur le papier à en-tête de Simon Wiesenthal.
Même si j'échoue, ça en valait la peine, dit doucement Saul. Les puissants ont eu leur comptant d'attention, même lorsqu'on a exposé la nature maléfique de leur pouvoir. Les victimes ne forment encore qu'une immense foule anonyme, des chiffres, des fosses communes.
Ces monstres ont fertilisé notre siècle avec les fosses communes où gisent leurs victimes, et il est grand temps que les misérables se voient offrir un nom et un visage. Et une voix. Saul éteignit la lampe torche et s'adossa à son siège.
Excuse-moi. Mon obsession commence à l'emporter sur mes facultés de raisonnement. Je commence à comprendre ce que c'est que l'obsession.
Saul contempla Nathalie à la douce lumière du tableau de bord.
Et tu es toujours décidé à agir en fonction de la tienne.
Nathalie eut un rire nerveux.
« Je ne vois pas d'autre moyen, et toi ?»« Mais plus on se rapproche du but, plus je me sens terrifié. »«
On n'est pas obligé de poursuivre. »« On peut aller à l'aéroport de Shreveport et prendre l'avion pour Israël ou pour l'Amérique du Sud ?»«
Non, pas question, » affirma Nathalie.
Au bout d'une minute, Saul lui dit
« Non, tu as raison. »
Ils échangèrent leur place, et Saul conduisit pendant plusieurs heures. Nathalie s'assoupit. Elle rêva de Rob Gentry, de son air choqué et incrédule lorsque le couteau lui avait tranché la gorge. Elle rêva que son père l'appelait à Saint-Louis, et lui disait que tout cela n'était qu'un malentendu, que tout allait bien, que sa mère elle-même était rentrée et se portait à merveille. Mais lorsqu'elle entrait chez elle, la maison était plongée dans l'ombre. Les pièces étaient emplies de toiles d'araignées poisseuses, l'évier débordait d'un liquide sombre et pâteux. Nathalie, qui était soudain redevenue une petite fille, courait en pleurant dans la chambre de ses parents. Mais son père n'était pas là, et sa mère, lorsqu'elle écartait son linceul de toile d'araignée, n'était plus sa mère. C'était un cadavre pourrissant, dont le visage n'était qu'un crâne recouvert d'une chair flétrie, et dont les yeux étaient ceux de Mélanie Fuller. Et le cadavre riait. Nathalie se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il roulait sur l'autoroute. Dehors, il faisait plus clair.
« Le jour s'est déjà levé ?» demanda-t-elle. « Non, »
dit Saul d'une voix infiniment lasse.
« Pas encore. »
Les cités du Vieux Sud étaient des constellations de faubourgs longeant l'Interstate. Jackson, Meridian, Birmingham, Atlanta. Ils sortirent de l'autoroute à Augusta et prirent la route 78 pour pénétrer en Caroline du Sud. Même de nuit, Nathalie commença à reconnaître le paysage. Saint George, où elle était allée en colonie de vacances à l'âge de 9 ans, durant cet été interminable qui avait suivi la mort de sa mère. Dorchester, où la sœur de son père avait vécu, jusqu'à ce qu'elle meure d'un cancer en 1976.
Somerville,
où elle partait en balade le dimanche après-midi pour photographier les vieilles demeures.
Charleston.
Charleston. Ils entrèrent dans la ville lors de leur quatrième nuit de voyage. Peu de temps avant 4 heures du matin, cette heure sombre de la nuit où l'esprit semble le plus faible. Les lieux familiers de son enfance apparurent comme déformés, distordu aux yeux de Nathalie. Le quartier pauvre mais bien tenu de St. Andrews lui sembla aussi dénué de substance qu'une image floue projetée sur un écran terne. Aucune lumière aux fenêtres de sa maison.
aucune pancarte à vendre dans son jardin, aucune voiture inconnue dans son allée. Nathalie n'avait aucune idée de ce qu'était devenu sa propriété et ses objets personnels après sa soudaine disparition. Elle regarda la maison à la fois étrange et familière. La petite véranda où, 5 mois auparavant, Saul, Rob et elle avaient discuté du mythe stupide des vampires psychiques et ne ressentit aucune envie de rentrer chez elle. Elle se demanda qui avait hérité des photographies de son père. Les épreuves signées Minor White, Cunningham, Milito, et les œuvres plus modestes de son père, et découvrit à sa grande surprise qu'elle avait les larmes aux yeux. Elle continua sa route sans ralentir.
« On n'est pas obligé d'aller dans le vieux quartier cette nuit, » dit Saul.
« Si, » répliqua Nathalie. Elle prit la direction de l'est et traversa le pont pour pénétrer dans la vieille ville. Une seule lumière brillait dans la maison de Mélanie Fuller, au premier étage, dans ce qui avait été sa chambre. Ce n'était ni une lumière électrique, ni la douce lueur d'une bougie, mais un pâle éclat vert aux pulsations régulières, telle la phosphorescence du bois pourri au fond des ténèbres d'un marécage. Nathalie agrippa le volant des deux mains pour faire cesser ses tremblements.
« La clôture a été remplacée par un mur et par un portail en fer, » dit Saul.
« C'est une véritable forteresse. » Nathalie regarda la lueur vert pâle palpiter derrière les volets. « Nous n'avons pas la preuve qu'il s'agit bien d'elle, » poursuivit Saul. « Les informations de Jack étaient vagues et vieilles de plusieurs semaines. »«
C'est elle. Allons-nous-en, nous sommes fatigués. Trouvons une chambre pour la nuit et demain... » Nous chercherons un lieu sûr où entreposer notre matériel.
Nathalie passa en prise et s'engagea lentement dans la rue obscure. Ils trouvèrent un motel bon marché au nord de la ville et dormirent comme des souches pendant 7 heures. Nathalie se réveilla à midi, vulnérable et désorientée, fuyant une série complexe de rêves frénétiques où des mains cherchaient à la saisir en passant par des vitres brisées. Épuisés et irritables tous les deux, ils achetèrent du poulet dans un fast-food et allèrent déjeuner dans un parc près du fleuve. Il faisait chaud, plus de 25 degrés, et le soleil était aussi impitoyable que les projecteurs d'une salle d'opération.
« Je suppose que tu devrais t'abstenir de sortir durant la journée, » dit Saul. « Quelqu'un risque de te reconnaître. »
Nathalie haussa les épaules.
« Ce sont eux les vampires et c'est nous qui devons sortir la nuit. »«
C'est pas juste. » Saul plissa les yeux pour contempler les reflets du soleil sur le fleuve.
« J'ai beaucoup réfléchi au pilote et au shérif adjoint. »«
Et alors ?»«
Si je n'avais pas forcé le shérif adjoint à appeler Haynes, le pilote serait encore vivant. »
Nathalie sirota son café.
« Haynes aussi ?»«
Oui. »
Mais je me suis rendu compte sur le moment que si j'avais dû sacrifier le pilote et le shérif adjoint, je n'aurais pas hésité. Et tout ça pour tuer un homme.
Il a massacré ta famille. Il a essayé de te tuer.
Saul secoua la tête.
Mais ces deux hommes n'étaient pas des combattants. Tu vois où ça nous mène. Pendant 25 ans, je n'ai eu que mépris pour les terroristes palestiniens en kéfier à carreaux, qui s'attaquent aux innocents parce qu'ils sont trop faibles pour lutter au grand jour. À présent, nous avons adopté les mêmes tactiques, parce que nous sommes trop faibles pour affronter ces monstres.
Ridicule.
Nathalie regarda une famille qui pique-niquait au bord de l'eau. La mère ordonnait au plus jeune de ses 3 enfants de ne pas s'approcher du fleuve.
Tu n'as pas fait exploser un avion en vol? Tu n'as pas attaqué un bus à la mitraillette? Ce n'est pas nous qui avons tué ce pilote, c'est Haynes!
« C'est à cause de nous qu'il est mort. »
Réfléchis une minute, Nathalie. Suppose que tous ces monstres, Barent, Harrod, Mélanie Fuller, Lauberst, suppose qu'ils se trouvent tous à bord du même avion de ligne, en compagnie d'une 100aine de passagers innocents. Serais-tu tenté de conclure cette histoire en y posant une bombe ?»«
Non. » »«
Réfléchis, » insista Saul. « Ces monstres sont responsables de 100aines, de milliers de morts. Il suffit de laisser mourir 100aine d'innocents pour mettre fin à leurs agissements. Est-ce que ça n'en vaudrait pas la peine ? Non, dit Nathalie avec fermeté. Ça ne marche pas comme ça.
Saul hocha la tête.
Tu as raison, ça ne marche pas comme ça. En adoptant un tel état d'esprit, nous deviendrions des monstres tout comme eux.
Mais en sacrifiant la vie du pilote, nous avons déjà commencé à le faire.
Nathalie se releva furieuse. Où veux-tu en venir, Saul? Nous avons déjà parlé de ça à Tel Aviv, à Jérusalem et à Césarée. Nous sommes conscients des risques. Écoute, mon père était une victime innocente, ainsi que Rob et Aaron, Déborah et les jumelles, et Jack aussi, et...
Elle s'interrompit, croisa les bras et se tourna vers le fleuve.
« Où veux-tu en venir ?»
Saul se leva à son tour. « J'ai décidé que tu n'accomplirais pas la phase suivante de notre plan. »
Nathalie se retourna et le regarda fixement. « Tu es dingue ! C'est notre seule chance de frapper les autres !»
Ridicule. « Nous n'avons pas encore trouvé d'autres moyens, c'est tout. Nous y arriverons. Nous avons agi avec trop de précipitation. »
« Trop de précipitation !»
s'écria Nathalie.
Les pique-niqueurs se tournèrent vers elle. Elle parla un peu moins fort, mais d'un ton aussi déterminé. « Trop de précipitation ? Le FBI et la moitié des flics du pays sont à nos trousses. Nous connaissons le jour. Le jour où tous ces salopards vont se retrouver ensemble. Ils sont un peu plus forts et un peu plus méfiants chaque jour. » Alors que nous sommes un peu plus faibles et un peu plus terrifiés. Il n'y a plus que nous deux à présent. Et j'ai une telle trouille que je ne serai plus capable de rien dans 8 jours. Et tu dis qu'on a agi avec trop de précipitation ?
Elle s'était remise à crier en achevant sa phrase.
D'accord, dit Saul. Mais j'ai décidé que ce ne serait pas toi qui te chargerais de ça. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est forcément moi qui dois y aller, on l'a décidé à la ferme de David.
Nous nous sommes trompés.
Elle se souviendra de moi.
Et alors? Nous la convaincrons qu'on lui a envoyé un nouvel émissaire.
C'est-à-dire toi, hein?
C'est raisonnable, dit Saul.
Non,
répliqua sèchement Nathalie.
Et tous ces faits, ces chiffres, ces dates, ces lieux, ces morts que j'ai mémorisés depuis la Saint-Valentin,
ils n'ont guère d'importance. Si elle est aussi folle que nous le pensons, la logique n'aura guère de prise sur elle. Si elle est saine d'esprit, nos informations ne sont pas assez précises. Notre récit est trop vague.
Oh, bon Dieu, c'est génial. Ça fait 5 mois que je rassemble mes forces et mon courage pour passer à l'action, et voilà que tu me dis que ce n'est pas nécessaire et que de toute façon ça ne marcherait pas.
Ce n'est pas ce que j'ai dit, déclara Saul d'une voix apaisante. Je dis simplement que nous devrions prendre le temps de chercher une autre solution, et que de toute façon, ce n'est pas à toi que cette tâche doit incomber.
Nathalie soupira. D'accord. Et si on ne reparlait de ça que demain matin? Ce voyage nous a épuisés. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil.
Entendu. Saul la prit par le bras, le serra légèrement, et ils regagnèrent leur voiture. Ils décidèrent de louer pour 15 jours un bungalow comprenant 2 chambres adjacentes. Saul y entreposa son matériel et travailla jusqu'à 9 heures du soir. Puis Nathalie l'obligea à s'interrompre pour manger le dîner qu'elle avait préparé.
« Ça marche ?» demanda-t-elle.
Saul secoua la tête.
« La réussite du biofeedback est aléatoire, même dans le meilleur des cas. Ce n'est pas facile. Je suis persuadé que les données que j'ai mémorisées peuvent être rappelées par suggestion post-hypnotique. » Mais je ne suis pas encore arrivé à élaborer le mécanisme de déclenchement. Il m'est rigoureusement impossible de reproduire le rythme θ, et je ne peux pas stimuler la pointe alpha.
Tout ton travail n'aura donc servi à rien?
Pour l'instant.
Est-ce que tu vas aller dormir?
Plus tard. Je vais encore travailler quelques heures.
Bien. Je vais nous faire un peu de café avant de retourner dans ma chambre.
Merci.
Nathalie alla dans le petit coin cuisine, fit bouillir de l'eau sur une plaque chauffante, rajouta une demi-cuillère de café instantané dans chaque tasse pour rendre la mixture encore plus forte, et versa dans la tasse de Saul une quantité soigneusement dosée de fantiazine,
la drogue dont Saul lui avait expliqué le fonctionnement au cas où elle aurait dû endormir Tony Harrod. Saul grimaça en goûtant son café.
« Comment le trouves-tu ? »
demanda Nathalie en sirotant le sien.
« Il est bon et il est fort. Exactement comme je l'aime.
Tu ferais mieux d'aller te coucher. J'en ai sans doute pour un moment. »
« Entendu. »
Nathalie l'embrassa sur la joue et se dirigea vers la porte donnant sur sa chambre. Une demi-heure plus tard, elle revint à pas de loup, vêtue d'une longue jupe, d'un chemisier foncé et d'un léger sweater. Saul dormait sur la chaise en vinyle vert. L'ordinateur et l'électroencéphalogramme étaient encore allumés, et une pile de dossiers était posée sur ses genoux. Nathalie éteignit les machines, posa les chemises sur la table, plaça sur la pile la note qu'elle venait de rédiger, ôta les lunettes de Saul et l'enveloppa dans une légère couverture. Elle posa doucement une main sur son épaule pendant quelques secondes, puis s'en fut. Nathalie s'assura que le break ne contenait aucun objet de valeur. Le C4 était rangé dans le placard de sa chambre, les détonateurs dans celle de Saul. Elle se rappela la clé du bungalow et la rapporta dans sa chambre. Elle n'avait ni sac à main, ni passeport, rien qui puisse révéler quoi que ce soit sur son compte. Nathalie s'engagea prudemment dans le vieux quartier, respectant feux de signalisation et limitation de vitesse. Elle gara le break près du restaurant chez Henri, conformément au message qu'elle avait laissé à l'intention de Saul, puis marcha le long de quelques pâtés de maison et arriva devant la demeure de Mélanie Fuller. La nuit était chaude et humide. Les feuilles des arbres semblaient se concerter pour occulter la lueur des étoiles et consumer tout l'oxygène de l'air. Lorsqu'elle arriva devant la maison Fuller, Nathalie n'hésita pas une seule seconde. Le portail était fermé, mais il était pourvu d'un heurtoir ouvragé. Nathalie fit cogner le métal contre le métal et attendit dans l'obscurité. Il n'y avait aucune lumière dans le bâtiment, à part la lueur verte émanant de la chambre de Mélanie Fuller. Aucune lumière ne s'alluma, mais au bout de 2 minutes, 2 hommes s'avancèrent dans l'obscurité. Le plus grand des deux marchait en traînant les pieds. Montagne de chair glabre aux yeux porcins, au regard vague et au crâne difforme de débile profond.
« Qu'est-ce que vous voulez ? »
marmonna-t-il, détachant chaque mot comme si un synthétiseur mal réglé s'exprimait par sa bouche.
« Je veux parler à Mélanie, » dit Nathalie à voix haute. « Dites-lui que Nina est ici. »
Les deux hommes restèrent figés durant une bonne minute. Les insectes bourdonnaient dans la haie, et un oiseau de nuit battit des ailes en s'envolant du palmier près de la baie vitrée du premier étage. À plusieurs rues de distance, une sirène poussa un hurlement suraigu qui s'interrompit brusquement. Nathalie se concentra sur ses jambes en coton qui menaçaient de la trahir. Finalement, le colosse prit la parole.
« Entrez !»
Il ouvrit le portail d'un tour de clé, et d'un geste vif attira Nathalie dans la cour et referma le verrou derrière elle. Quelqu'un ouvrit la porte d'entrée de l'intérieur. Nathalie ne vit que les ténèbres. Avançant d'un pas vif entre les deux hommes, le bras droit toujours prisonnier de l'étreinte du géant, elle entra dans la vieille maison.